Bienvenue à la BPI pour cette nouvelle rencontre avec notre partenaire, le prix Albert Londres. Quelques mots pour commencer. Si les bibliothèques ont un rôle primordial à jouer dans la diffusion de l'information, ce sont les journalistes qui ont un rôle fondamental dans la production de cette information. Aujourd'hui, partout dans le monde, le travail des journalistes est mis en péril. Quand ce n'est pas tout simplement la vie des journalistes qui est en danger. En 2021, 41 journalistes ont été tués et aujourd'hui, 874 journalistes sont en prison pour avoir fait leur travail. Donc nous avons une pensée pour eux ce soir. Ce soir, nous organisons un grand entretien avec Caroline Hayek, que nous aurions aimé accueillir à la bibliothèque et au Centre Pompidou. Malheureusement, en raison de la pandémie, nous n'avons pas pu la faire voyager. Donc, elle est en direct dans les locaux de la rédaction de L'Orient le Jour. Bonsoir, Caroline.
Bonsoir à tous et à toutes.
Merci d'être parmi nous. Donc Caroline travaille à L'Orient le Jour, le journal national libanais. Je vais laisser la parole en fait tout de suite à Hervé Bruvigny, le président du prix Albert Londres, qui va nous présenter la soirée, et notre second invité, Philippe Rochaud. Merci. Et je remercie bien évidemment la régie qui permet cette retransmission en direct. Merci.
Merci.
Merci la régie, merci, puis merci à vous d'être là, hein, parce que les temps sont difficiles, donc c'est formidable de vous avoir dans cette salle, et puis c'est formidable aussi d'avoir tous ceux qui ne sont pas là, mais qui regardent ou vont regarder cette soirée, cet entretien. Moi, c'est un très grand plaisir que j'ai à avoir Caroline Hayek, qui est là-bas à Beyrouth, qui est donc le dernier prix Albert Londres de presse écrite. Et puis, mon ami, j'ose le dire, Philippe Rochaud, voilà, un journaliste absolument remarquable. Je sais, les journalistes s'auto-congratulent beaucoup, mais Philippe, c'est autre chose. Voilà, c'est quelqu'un de, vous allez voir, de formidable, que vous avez peut-être vu beaucoup sur le petit écran, à l'info, aussi bien en Italie, en Allemagne, en Chine, au Proche-Orient. C'est fou ce que tu as pu écumer. Mais bon, le Liban et Beyrouth, c'est quelque chose. C'est une partie de ton histoire forte. On y reviendra. Et puis, on va découvrir que tu es aussi un photographe. Alors moi, quand j'ai vu ça, je veux dire que je suis assez tombé de l'armoire parce que tu fais tellement de trucs quand tu es sur le terrain. On a découvert qu'en plus, tu prenais des photos. Voilà, il y a un œil, quoi. Mais on va parler de tout ça. Et avant d'échanger sur Beyrouth, le Liban, ce matin encore, j'entendais dans une radio France Info, pour ne pas la citer, la grande souffrance de Beyrouth, son grand dénuement, où décidément peu de choses bougent. On va juste citer Albert Londres, après tout, puisque c'est le patronyme qui nous réunit. Et Albert Londres, il y a un petit film qui le montre au large de Beyrouth en 1919, sur une frégate avec le général Gouraud. Et la circonstance est importante, parce que c'est 1919, le moment où les Français reviennent au Liban. Il y a un accord qui a été passé, les accords Sykes-Picot, qui font que les Français peuvent prétendre à s'occuper des côtes libanaises, de Beyrouth en particulier. En échange, les Britanniques, eux, vont s'occuper de la Palestine. Et donc, je vais vous lire juste ces quelques lignes du mois de décembre, presque jour pour jour. Là, c'est le 10 décembre 1919, voilà que Albert est au large et il vient de débarquer avec Gouraud, qui est un général un peu particulier. Il lui manque un bras, il a une jambe déficiente, c'est une sorte de héros. Et voilà, les Français débarquent et Albert Londres arrive au Liban. Et donc, voici ce qu'il dit. Les troupes anglaises quittent la montagne, je vous l'ai dit, et les troupes françaises la prennent. En marche, donc, pour l'intérieur du Liban. Aimez-vous l'unité, alors ne voyagez pas dans ce pays, car c'est ici le véritable pas, au sens base, de la tour de Babel. Il y a d'abord Beyrouth, et Beyrouth, c'est une ville heureuse. Parmi les Juifs, les Arméniens et toute l'échelle des descendants phéniciens, grecs, égyptiens, vénitiens, génois et français d'Orient, on peut voir encore des hommes qui ne sont que syriens. Ça vous fait plaisir de rencontrer enfin en série des messieurs qui, déclinant leur nationalité, vous disent « Ce que je suis, ben, je suis syrien ». Et ces messieurs parlent notre langue comme sur nos boulevards. Le plus sûr tailleur les habille. Il ne porte les distinguants de nous que le fez. Dans la montagne, ce sont évidemment des Syriens aussi, mais ils vous disent « Non, monsieur, je ne suis pas Syrien, je suis Libanais ». Donc vous voyez déjà l'entrelac, la multiplicité, la proximité de la Syrie sont ici largement évoquées par Albert Londres, et Dieu sait si à l'époque Syrie, monde britannique, tout ça, était, je dirais, dans le quotidien de l'actualité. Alors, on va déjà se tourner, bien sûr, puisque le Liban et Beyrouth sont à l'honneur, avec Caroline Hayek. Caroline, tu es en direct du quotidien L'Orient le Jour.
Oui.
On a tous été stupéfaits et meurtris par les explosions du 4 août. Je voudrais savoir où tu étais, toi, ce 4 août-là, où le port de Beyrouth est secoué par deux explosions. Où étais-tu ?
Alors moi, je n'ai pas vécu ces explosions. J'étais en vacances en France à ce moment-là. Ouais. Du coup, j'ai reçu, à un moment, je reçois un flot de messages sur mon téléphone. Et les premières images qui sont apparues, c'était l'incompréhension totale. Beaucoup de gens ont pensé que voilà, c'était une nouvelle guerre qui venait de déclencher. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu des avions au-dessus de la capitale. Donc on a pensé tout de suite à un largage de bombes. Et il a fallu s'enquérir de ma famille qui habite dans certains quartiers et d'amis proches. Heureusement, autour de moi, il n'y a eu que des blessés légers. Mais par exemple, à la rédaction, on a des journalistes, des collègues dont les appartements ont été ravagés. Enfin, on a eu, voilà, il y a eu des histoires assez dramatiques. Donc moi, vivre tout ça à distance, en étant complètement déconnectée à plus de 3000 km, c'était quelque chose de difficile. Et j'ai voulu rentrer le plus vite possible. Donc je suis rentrée au Liban quelques jours plus tard, avec mon mari qui est également journaliste à L'Orient le Jour. Et là, il a fallu s'organiser parce qu'il y avait, donc, comme je l'ai dit, des journalistes qui étaient encore sous le choc, qui devaient réparer les dégâts qu'ils avaient subis dans leurs habitations. Donc, toute la rédaction a été mobilisée pour raconter ce Beyrouth meurtri, cette population frappée en plein cœur. Moi, je travaillais à cette époque-là, je travaillais au sein de l'équipe internationale. Donc, je ne couvrais pas le Liban, je n'allais pas en reportage sur le terrain libanais. Mais là, j'ai été mise à contribution. Et c'est comme ça que j'ai démarré toute une série de reportages.
Sur lesquels on va revenir. Oui. Donc, je redis que cette double explosion a fait 215 morts, 6500 blessés, on en a ressenti les secousses à des kilomètres et des kilomètres à distance de Beyrouth, et que donc ça avait des allures de cataclysme. Alors, ce que je voudrais, c'est demander à Philippe, toi, tu connais très bien, tu as été là-bas à Beyrouth longuement, à la fois pour la radio, je crois, et pour la télévision. En un mot, tu étais à quelle période ?
Moi, je suis arrivé à Beyrouth en octobre 1973, c'est-à-dire juste deux mois avant la guerre d'octobre. Je suis arrivé en août 73, deux mois avant la guerre d'octobre 73. Et donc, j'ai été tout de suite servi par les événements, quoi. Et puis, la guerre civile a commencé en 1975. donc exactement le 13 avril 1975. Et donc, j'ai couvert toute cette période-là. Donc, je suis resté pendant 3 ans et demi au Liban.
Oui.
Puis après, je suis revenu engagé par France 2 pour, comme grand reporter, quoi.
Oui.
Et donc, comme je connaissais bien le Liban, à chaque fois qu'il y avait un mauvais coup au Liban, c'était pour moi. Mais j'étais très content parce que j'étais passionné par ce pays. Bon, jusqu'au jour de mars 86 où j'ai été enlevé avec mon équipe. Et donc là, ça a été quand même un tournant dans ma vie personnelle et dans ma carrière aussi.
Bien sûr. Alors, juste... Une fois cette petite rétrospective de ta concentration, si j'ose dire, sur la zone. Toi, t'étais où le 4 août ? C'est vrai, tu disais, on fait un peu comme le 11 septembre, mais après tout, c'est un peu le 11 septembre de Beyrouth. Toi, tu étais où ? Qu'as-tu pensé quand tu as entendu qu'une explosion aussi ravageuse avait eu lieu ?
Ben, quand il se passe quelque chose au Liban, on a des tas d'interprétations. Quoi. On dit alors, est-ce que c'est un bombardement israélien ? Est-ce que c'est un attentat ? Est-ce que c'est... Mais j'avoue que je n'ai pas pensé à cette histoire de nitrate de potassium qui était entassée dans le port de Beyrouth et qui aurait donc explosé. Quoi.
Oui.
Mais c'est une hypothèse tout à fait vraisemblable.
Oui.
Donc après, il y a toutes les analyses complotistes qui interviennent là-dessus, où on dit oui, voilà. Alors on a entendu, c'est vrai, il y avait des avions qui parcourent régulièrement le ciel libanais. Donc on se demande si ce n'était pas un bombardement israélien. Donc c'est la thèse qui a été aussi avancée. Oui. Et donc voilà, pour l'instant, voilà. C'est très difficile de savoir. Il y a un juge là, qui a l'air d'être un monsieur très bien qui s'occupe de cette affaire pour savoir où sont les responsabilités. Et moi, je lui laisse tout à fait
l'interprétation. Bien sûr, on y reviendra d'ailleurs parce que il y a toute une difficulté entre la justice... pour qu'elle puisse avancer et la difficulté, on va dire, locale avec tous les grands personnages qui ne tiennent pas forcément à ce qu'on lève le voile sur ce qui s'est réellement passé. Alors, on va aller maintenant, donc, Caroline Hayek, sur réellement ce qu'elle a écrit. Et ce qui est intéressant avec vous, hein, je le dis dans la salle, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos deux amis journalistes, c'est, tu parlais de cette, comment dire, ce démarrage pour toi sur le terrain, et donc le premier papier que tu fais est un papier consacré aux populations syriennes, c'est bien ça, qui pensaient avoir échappé aux pires horreurs chez eux, à Damas et dans d'autres villes syriennes, et qui, pour certaines, vont y laisser la vie, y laisser des parties de leur corps. Et donc, je trouve extrêmement singulier le fait que tu te sois préoccupé d'aller voir... On va peut-être voir ce premier papier... voilà, ils ont fui la guerre en Syrie, ils sont morts dans les explosions de Beyrouth. On ne saurait être plus, comment dire, loquace et clair sur les intentions. Comment t'es venue cette idée ? Vous en avez débattu en salle de rédaction. Comment l'angle précis, puisqu'il y en a un là, est arrivé et a été décidé ?
Oui. Alors, comme voilà, depuis mon entrée à l'Orient Le Jour en 2014, je me suis concentrée sur le conflit syrien en couvrant depuis Beyrouth. Voilà, pour moi, ça me paraissait vraiment évident d'aller raconter les vies fauchées de ces réfugiés qui se trouvent au Liban. Il y a une quarantaine de réfugiés syriens qui sont morts lors des explosions. Et c'est vrai que les premiers jours après ce drame affreux, les projecteurs n'étaient braqués forcément que sur la population libanaise. Mais Beyrouth est constituée de différentes communautés. Donc, comme j'ai beaucoup de contacts en Syrie et au Liban, quant à la population des réfugiés, je voulais absolument leur donner la parole. Voilà, raconter ce destin, mais des plus tragiques. Ils fuient un pays en guerre dans des conditions invraisemblables. Ils arrivent dans un pays où ils essayent de reconstruire leur vie, de construire une famille. Ils vivent dans des conditions vraiment, vraiment terribles, parce que je l'explique plusieurs reprises. Ils vivent comme des citoyens de seconde zone. Il y a beaucoup de racisme vis-à-vis des Syriens au Liban. En allant les voir, alors ils m'ont raconté comment ils avaient perçu ce drame, mais ce qui ressortait aussi, c'est ce parcours terrible. Ils disent, mais quelle malchance, on arrive au Liban, on pense être dans un environnement à peu près...
en sécurité.
En sécurité. Et ce qui est aussi tragique, c'est une des personnes que j'ai rencontrées, il me disait qu'il a perdu son épouse lors des explosions, a voulu avoir de l'aide des ONG qui s'activaient dans les rues, dans les quartiers dévastés, et une des personnes en charge lui a dit « Ah, maintenant, toi, tu sais rien, passe ton chemin ». Donc, pour dire que même après ce drame, il y a certaines personnes, il y avait certes une solidarité énorme, mais il y avait aussi ce racisme latent qui se perpétuait.
Caroline, ils sont combien globalement les réfugiés syriens au Liban ?
Plusieurs millions. La majorité sont en Turquie.
Oui.
Il y en a pas mal au Liban. J'ai d'ailleurs fait un article dans cette série que j'ai présentée au Albert Londres, au prix, sur le vote des oui. réfugiés syriens à l'ambassade de Syrie au Liban, où je raconte comment certains qui venaient voter pour Bachar el-Assad. Certains réfugiés étaient contraints d'aller voter parce qu'ils ont de la famille en Syrie qui aurait pu être menacée. Donc il y avait des ONG.
Et qu'ils sont sous surveillance.
Voilà.
Alors, juste pour évoquer un peu l'écriture, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on transmet tout ce que tu viens de dire là, comment, pour le coup, on le transcrit. Et donc, je vais lire juste les premières lignes de ce papier. « Baba, elle est où, maman ? Elle est partie au Cham, en Syrie. Est-ce qu'on peut l'appeler sur WhatsApp ? Allah El Mohamed, 31 ans, ne trouve pas les mots face aux supplications de Zeynab, 7 ans, et d'Omar, 4 ans. Comment peut-il leur dire qu'il a conduit la dépouille mortelle de leur mère, Nawal, 28 ans, jusqu'à la frontière syrienne ? Et que puisqu'il risquait de se faire arrêter par l'armée du régime en mal de recrue, des proches ont dû prendre le relais pour accompagner la défunte vers sa dernière demeure dans son village natal de Sabikan, proche de Boukamal. Cette jeune mère de famille est l'une des 40 victimes syriennes, tu l'as dit, connues des explosions qui ont soufflé le port de Beyrouth. Peu importe combien ça allait me coûter, je voulais absolument qu'elle repose en Syrie. Et donc, là, on voit, tu as décidé de démarrer ton article avec quelque chose de presque intime, un dialogue entre le père et les enfants. Et donc ça, c'est parce que tu avais rencontré plusieurs témoins et qu'une fois rentré de ta visite, en quelque sorte, auprès des Syriens, tu t'es dit « je démarre mon papier avec ça » parce que finalement, c'est ce qui t'avait le plus touché, le plus remué, j'allais dire.
Bien sûr, une conversation entre un papa complètement désœuvré et des enfants à qui il n'a pas dit la vérité jusqu'à plusieurs semaines après les explosions. C'était évidemment quelque chose qui m'a beaucoup marqué et je tenais absolument à commencer mon article sur ça. Ouais.
Et donc, ce papier est une succession de témoignages que tu as recueillis. Et tu finis ce premier papier que donc tu rédiges en étant rentré après ces vacances en France et après l'explosion. Parles d'un homme syrien, lui aussi, qui a vécu tout cela. Et tu dis à la fin, un jour il est revenu bouleversé, il s'était vu refuser l'entrée d'un jardin public avec ses enfants sous prétexte qu'il était syrien, raconte Aref El Ali, parlant d'une victime, une victime syrienne, une blessure vive pour son frère, c'est le frère de celui qui parle, qui ne parvient plus à retenir ses larmes. C'est-à-dire, il y a cette double pénalité dont tu parlais. Il fuit un régime, Ils sont en butte à ce racisme, ils sont victimes des explosions, et toi, tu rends compte de cela au moment où le pays est fondamentalement ému par les Libanais eux-mêmes. Il y a quelque chose de l'ordre du contre-courant, quand même, là, dans l'option qui est la tienne, de se rapprocher de ces victimes-là.
Oui, oui, peut-être, c'est évidemment. Et c'est vrai que cet homme, je reviens sur son témoignage, parce qu'il venait de perdre son frère. Il m'a accompagnée jusqu'à l'appartement où son frère regardait l'incendie qui est survenu au port. C'était un immeuble ultra-moderne, construit par un architecte français qui est d'ailleurs mort lors des explosions. Il habitait dans cet immeuble. Et donc, il a gardé ce monsieur syrien a gardé son sang-froid pendant toute la matinée où j'ai pris cette photo. Je sais pas, je pense qu'elle est affichée.
Oui.
Mon collègue a pris cette photo. Il n'a pas versé une larme. Et c'est vrai qu'au dernier moment, quand il m'a raconté l'anecdote de son frère qui s'était vu refuser l'entrée d'un jardin public avec ses enfants sous prétexte qu'il était syrien, il s'est mis à fondre en larmes. Donc là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Et il y a d'autres personnes, d'autres Syriens que je cite dans l'article qui m'en parlent. Ils me disent, on nous traite pire que... Nous ne sommes pas des êtres humains au Liban. Donc c'était pour moi une question que je devais absolument soulever. Parce qu'au-delà de l'explosion, c'est toutes les problématiques que connaît ce pays qu'il fallait mettre en lumière.
Dans le style que tu utilises, c'est un style finalement très minimaliste, qui dit ce que tu vois, sans fioritures, et qui fait, comme on dit parfois avec cette expression qui ne vaut que ce qu'elle vaut, une sorte de factuel des témoignages que tu recueilles. Et voilà. Et ça veut dire que l'importance du reportage, là, est cruciale, parce que il n'y a pas la possibilité de trouver cette vérité-là si on ne va pas la chercher.
Bien sûr, bien sûr. Je me mets en retrait. C'est vraiment leur parole qui est mise en valeur. Pas besoin de rajouter du pathos derrière. Ce qu'ils racontent est suffisamment dramatique pour ne pas rajouter une couche. Donc, j'essaye de rester le plus sobre possible dans ce genre d'article.
Alors, juste demander à Philippe, qui, lui, a connu la guerre et pas forcément ce genre de catastrophe. Mais on va dire, dans l'extrême force et dévastation de la circonstance, cette retenue, le fait de ne pas aller forcément vers le plus pathos, comme disait Caroline, c'est important, ça, parce que c'est un souci qu'on a de façon à être fidèle à quelque chose qui est déjà terrible en soi.
Moi, je crois que, quels que soient les événements qu'on vit, il faut quand même garder une certaine distance. Et bon, comme disait Caroline, laisser parler les gens.
Oui.
Parce que d'après leur langage, on a une interprétation totalement véridique de l'événement. Il ne s'agit pas de nous d'en rajouter et d'en remettre une couche, comme disait Caroline. Mmh. Et donc, moi, dans ce que j'ai vu au Liban, finalement, je peux dire que ça parlait tout seul, quoi. Moi, j'ai, par exemple, couvert la bataille de Tel Zatar, qui a duré pendant un mois et demi, qui a fait plus de 1000 morts. Oui. Et donc, quand vous voyez ça, ce n'est pas la peine de rajouter dans le commentaire, ou même à l'image, n'est-ce pas ? Il faut garder quand même une image assez sobre, relativement sobre.
Ça veut dire qu'on n'est pas collé au sang et qu'on reste à une sorte de distance, là aussi, physique.
Oui, parce que sinon, ça passera pas à la télévision, parce que quand même, il faut une certaine pudeur aussi.
Bien sûr.
Quand on montre des images. Et ce n'est pas nécessaire non plus d'aller faire des gros plans sur les atrocités, sur les blessures, mais je pense que ça parle tout seul quand on montre ces images-là avec un certain respect.
Oui, c'est ce qui s'appelle le respect de la dignité humaine, qui est en soi d'ailleurs une catégorie juridique quand on montre les personnes victimes d'attentats ou de désastres.
Oui, alors là, il y aurait un débat aussi à faire, c'est... Quand on montre des images d'attentats qui se passent à l'étranger,
oui.
On a beaucoup plus de liberté que quand c'est des attentats qui se passent en France. En France, vous ne pouvez pas montrer une image d'une victime.
Oui.
Ou alors il faut la masquer. Bon, vous pouvez montrer quelqu'un sur un brancard, etc. Okay. Mais par contre, quand il y a un attentat à Kaboul, à Beyrouth, à Bagdad, là, on a beaucoup plus de facilité pour
montrer l'image. Donc, ce
est-ce que ça en apporte plus que de montrer la réalité crue je ne sais pas.
Ce qui arrive, c'est que parfois, ceux qui tournent n'ont pas les mêmes précautions, je veux dire, localement, au moment où les choses se passent, que nous, avec l'environnement et l'évolution juridique qui encadre l'image. Là-bas, les images sont beaucoup plus brutales et rapides, et on les utilise quand même. Voilà peut-être la différence. Mais tu as raison, bien sûr, c'est un vrai souci permanent que nous avons, quoi. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on voit l'autre texte que tu as fait, qui est le second, c'est le dernier jour de leur vie, c'est ça, je crois.
Et les premiers jours du...
Oui, voilà, les premiers jours du reste de leur vie. Alors là, je trouve qu'on commence à avoir quelque chose qui est un peu, certes, le compte-rendu très détaillé des choses, mais aussi avec... quelque chose en plus, avec une expression déjà plus, comment dire, recherchée, pas seulement clinique. Et d'ailleurs, je trouve que le texte le montre bien, le texte du titre, « Les premiers jours du reste de leur vie » montre une démarche qui va au-delà du simple constat, ou du seul, pas simple, mais du seul constat de ce qui s'est passé. C'est quoi pour toi ce second papier ? Quel emploi et quelle utilité il avait dans ton esprit et pour le journal ?
Oui. Alors, ce papier, c'est vrai que quand je suis allée à la rencontre de ces Libanais, pour le coup, qui avaient subi les explosions, j'ai eu un peu le sentiment... comme les journalistes français après les événements du 13 novembre, il fallait avoir à l'époque une certaine distance, mais en même temps, quand c'est votre ville qui est touchée en plein cœur, c'est un peu compliqué. Donc ces personnes-là que j'ai choisies et que j'ai rencontrées, je voulais qu'ils me parlent de comment ils avaient vécu cette explosion, quelles ont été les conséquences pour elles, et surtout comment on si on peut se remettre, comment ils étaient en train de vivre ces semaines ou ces mois après l'explosion, en sachant qu'ils vivent dans un état failli, qui n'est pas venu en aide à la population, ou vraiment très très peu. On a dû compter, les Libanais ont dû compter sur la solidarité pour pouvoir reconstruire les habitations, pour pouvoir trouver de quoi se nourrir, pour se soigner, alors en sachant que ils n'ont pas accès aux soins, que tout est payant au Liban. Si vous n'avez pas de couverture sociale, alors vous pouvez malheureusement mourir devant la porte des urgences. Donc je voulais raconter ça, et je suis allée voir par exemple une dame qui a perdu son mari plusieurs jours après l'explosion. En fait, le monsieur a fait un choc, a fait une crise cardiaque plusieurs jours après, et il n'est malheureusement pas compté parmi les victimes de cette explosion. Pourtant, c'est une victime. Et ce qui était dramatique, c'est de voir qu'elle avait tout perdu. Elle avait perdu un des seuls membres de sa famille, c'est tout ce qui lui restait, cet époux-là. Son appartement ne ressemblait plus à grand-chose. Et en même temps, elle ramassait, quand je l'ai rencontrée, elle ramassait des bouteilles d'eau à moitié pleines dans les rues dévastées du quartier de Mar-Michael. Et elle avait, avec une certaine gêne, elle m'a dit « maintenant, il n'y a plus d'eau à la maison. » elle ne me l'a pas dit, mais elle va aller voir peut-être boire ou se laver avec cette eau un peu croupie. Donc, et c'était très triste parce qu'il y avait aussi une certaine dignité, beaucoup de dignité chez toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Elles ont été... traumatisées, elles sont humiliées au quotidien, elles doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Elles vous racontent toute la colère, il y a toute cette colère qui ressurgit, et en même temps, elles aiment ce pays, elles en parlent avec nostalgie de ce Liban d'avant, même de ce Liban pendant la guerre, elles regrettent quelque part, elles le disent, même pendant la guerre, on a vécu un tel choc.
Et donc... là, on sent une évolution par rapport au premier papier, qui, lui, est un choix d'angle spécifique. Là, l'évolution, c'est que il y a la colère dont tu parles, cette dimension-là. Il y en a un qui dit si ça continue, on va tous crever la gueule ouverte. C'est-à-dire, on parle brut de décoffrage, si j'ose dire. Et donc, ouais. Ça veut dire que le travail du journaliste, c'est aussi un travail sur l'interpellation, la colère dont je parlais, la mise en cause des autorités. Et là, on franchit un cap supérieur, ou en tout cas une étape. On n'est plus simplement dans le constat de la dévastation, mais on est dans une interpellation plus politique.
Oui, bien entendu, puisqu'il y a une telle impuissance, c'est des personnes dont on n'entend jamais la voix, qui vous disent maintenant on fait comment. Alors c'est un appel aux solidarités et non, c'était très important pour elle de raconter. Elle y avait, c'était un besoin important. Alors il y a une famille que je rencontre à la fin, justement à la fin de l'article, oui. qui n'était pas dans leur appartement au moment de l'explosion, mais qui a retrouvé donc cet appartement dévasté. Le papa a été assez blessé, et c'est un jeune qui n'a même pas 30 ans, qui est chauffeur de taxi, qui gagne des clopinettes, et qui nous dit si j'avais pas ces enfants, je me foutrais en l'air. Enfin, il a dit comme ça. Donc, c'était important pour moi de ne pas déformer leurs mots, raconter leur colère, écrire leur colère de manière vraiment très brute. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans cet article-là. Et il y a une famille que je rencontre aussi et qui ont perdu une petite fille de 3 ans et demi. Ils sont, voilà, c'est des parents qui ont fait beaucoup le tour des médias. Et au moment où je les ai rencontrés, ils étaient tellement dévastés qu'ils s'apprêtaient à quitter le pays, à dire voilà, on n'en peut plus, ce pays nous a tout pris, notre enfant, on n'a plus aucun espoir. Et finalement, aujourd'hui, au contraire, qui ont recentré leur énergie et qui se donnent, ils ont donné une mission de travailler pour ce pays, de donner de leur temps pour les ONG, et ils y croient, ils veulent se battre pour ce pays.
Oui, c'est un couple incroyable. Tout à fait, et d'ailleurs qui occupe pas mal de place dans ton article. Ouais. Pour savoir comment se déroulent les choses, quand tu fais ce genre de papier, il est fait du matin pour le soir, ou il y a eu plus de journées passées sur le terrain. Raconte-nous un peu les conditions de sa réalisation.
Non, j'ai passé plusieurs jours. Voilà, déjà pour contacter les gens. Au début, certaines personnes qui n'étaient pas très prêtes à témoigner, à raconter ce qui s'était passé. Donc, il a fallu un peu les rassurer. Je ne vais pas dire les convaincre, parce que c'est vraiment les rassurer, parce qu'ils ne voulaient pas, absolument pas, que leur témoignage passe à la trappe, que ça soit juste du sensationnalisme, qu'on raconte leur malheur comme ça et qu'on s'en aille. Et donc, non, j'ai mis plusieurs jours à le faire et à l'écrire également. Ouais.
Parce que les personnes ont ce souci d'être réduites à quelque chose, à un traitement sensationnaliste, autrement dit, la défiance, au-delà des raisons politiques, confessionnelles, existe réellement chez toi aussi, à l'égard du travail du journaliste, même dans des circonstances pareilles ?
Oui, totalement. Enfin, ça se voit plus au niveau de la télévision. Enfin, on voyait très bien certains des reportages au Liban qui vont à la rencontre des victimes. C'est très basique. On leur pose deux, trois questions, mais on n'a pas le temps forcément de leur donner la parole, d'essayer de comprendre leur colère, de poser un diagnostic sur leurs mots. Donc, voilà. Oui.
Alors, Philippe, je trouve que là, Caroline parle d'un élément de fond, c'est-à-dire que quand on va à la rencontre de quelqu'un, ce n'est pas seulement pour en extraire les 5 ou 15 ou 20 secondes d'un sonore et quelques phrases à l'arrache pour dire voilà ce qui s'est passé, mais le respect, c'est aussi le temps qu'on passe avec les personnes et la manière dont on rend justice, quelque part, au temps qu'ils nous donnent quand on les enregistre.
Ça, le temps, c'est quelque chose de très important, de capital dans notre métier. C'est-à-dire qu'on passe trop vite sur les choses. On ne reste pas assez longtemps avec les gens, justement. Mmh. Et ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir partager la vie des gens. Oui. Et bon, c'est pour ça que moi j'aimais bien être en poste au Liban, parce que ben, on avait l'impression quand même de partager la vie des gens, de partager le sort des gens. Et donc, dans les reportages que je faisais, j'aimais bien aussi rester chez eux. Je me souviens aussi de reportages dans les abris, vous voyez, oui. Passer la nuit dans un abri avec les gens. Oui. Là, vous vouliez d'amitié, vous recueillez des informations importantes, des sentiments importants, des impressions importantes, oui. Des émotions capitales. Et à partir de là, vous pouvez faire votre reportage. Donc, ce n'est pas en restant seulement quelques minutes à parler avec les gens dans la rue que vous arriverez à sortir les éléments essentiels de votre reportage. Donc le temps, c'est quelque chose de très important dans notre métier. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut toujours aller très vite, surtout avec les moyens techniques qu'il y a, le smartphone, les satellites et tout. Et donc, moi, la période que j'ai vécue, on avait peut-être plus le temps parce que justement, il fallait après, il fallait par exemple le... On était en film pour la télévision. Quand j'ai commencé la télévision, c'était du film. Donc, quand on développait le film, bah, pendant ce temps-là, vous aviez le temps de réfléchir aussi aux commentaires que vous alliez faire.
Bien sûr.
Et donc, c'était un atout quand même essentiel.
Parce que, d'une certaine manière, sur cette affaire de temps, toi, à la télé, tu as connu tout l'éventail technologique, c'est-à-dire du film jusqu'au numérique pour les derniers reportages que tu as pu faire. Mmh. Et donc, tu as été témoin journalistique de cette accélération.
Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est très bien aujourd'hui de pouvoir transmettre facilement. Parce que, comme je disais ce matin à Caroline quand on parlait, moi, quand je faisais un reportage au Liban, il fallait trouver quelqu'un pour expédier le reportage. Il fallait trouver un passager. Or, l'aéroport était fermé. Donc, il fallait aller envoyer un taxi sur Damas pour trouver un passager qui partait sur Paris, qui portait la pellicule. Quand vous étiez, par exemple, dans le quartier chrétien d'Achrafieh au début de la guerre civile, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, quand vous faisiez votre reportage dans cette région-là, il fallait ensuite retraverser la ligne de démarcation et téléphoner depuis Beyrouth Ouest, où le standard était tenu par les Palestiniens. Donc parfois, il fallait soudoyer les Palestiniens pour avoir une ligne. Donc vous voyez, alors qu'aujourd'hui, ben là, regardez, c'est formidable. La liaison qu'on a avec Caroline, on parle directement comme ça. Elle est à Beyrouth, nous, on est à Paris. Donc pour moi, je trouve que c'est une découverte quand même essentielle de pouvoir traiter les choses... De cette façon.
Yes. Et l'idée, peut-être, aujourd'hui, c'est de, dans un second temps, après le news, comme on dit, de consacrer plus de temps et de faire en sorte que la politique éditoriale des journaux, des magazines, permette ça.
Voilà. Heureusement, il y a les magazines qui permettent de passer du temps sur place et aussi de réfléchir et de prendre son temps pour monter un reportage. Et ça, ça a quand même été conservé et ça, c'est formidable.
Oui. Alors, je voudrais qu'on voit le troisième papier que nous avons retenu et que tu avais envoyé au jury du prix, qui s'appelle « Promenade dans un Beyrouth en déliquescence ». Le voilà. Et donc, le sous-titre, c'est « Ceci pourrait être une banknote comme les autres dans les rues de la capitale, sauf qu'elle n'a plus tout à fait le même visage. Elle se dresse, hirsute, humiliée, avec parfois des allures de squat à ciel ouvert. Là, on sent un style, un investissement presque littéraire dans l'expression qui est la tienne. Je vais en donner une preuve supplémentaire avec le début du papier qui commence ainsi. Une jeune femme étant de la lingerie fine a fait rougir le sein charbel en plâtre posé dans un angle de son balcon. Dans le quartier de la Sagesse, à Achrafieh, les voitures se faufilent dans les rues sinueuses au son des marteaux-piqueurs. Des couvertures d'hiver à motif tigre sèchent au soleil avant d'être rangées dans les placards jusqu'à l'an prochain. Deux jeunes viennent livrer des prie-dieux à l'entrée de l'archidiocèse maronite. Un peu plus loin, un conducteur bougonne en voyant arriver un taxi à contresens avant de bloquer la route pour le faire revenir d'où il vient. C'est de l'impressionnisme et on te suit, on entend les sons, on est presque sur le point de sentir les parfums. Et donc ça, c'est... Ça a été aussi un choix. Est-ce que vous en avez débattu? Comment ça se passe pour tout à coup écrire de cette manière-là, alors qu'avant, on a rendu compte de façon clinique d'une explosion et d'une colère?
Oui, ça c'est un article beaucoup plus personnel. Je voulais raconter donc, la ville dans laquelle j'ai principalement grandi. Plusieurs mois, j'ai fait ce reportage plusieurs mois après l'explosion. Je suis descendue plusieurs jours dans les rues de Beyrouth, dans les quartiers dévastés. Je voulais raconter les stigmates voilà, prendre une photo des stigmates de cette explosion, mais aussi raconter cette ville que le monde, le Moyen-Orient nous enviait, qui était très festive, remplie de touristes, qui était très très vivante, qui avait une vie nocturne assez importante, et qui là, à cause de non seulement de l'explosion, mais de la crise économique, était dans un état je dis dépressif. Et donc ça se ressentait au niveau de l'infrastructure, des habitations, mais également la population. Il y avait très peu de, toutes les fois où je suis descendue dans la rue, il y avait très peu de gens dans les rues, dans les quartiers. Et les gens que je pouvais croiser avaient des visages complètement fermés, encore sous le choc de ces explosions dont ils parlaient de manière assez ouverte. Mais surtout, ce qui revenait, c'était encore une fois la colère, le fait de cette humiliation, se sentir complètement abandonné par nos gouvernants, abandonné par le monde entier. Et donc, c'est une promenade très personnelle de mes impressions, c'est une description un peu plus littéraire.
Oui, tout à fait. Encore une fois, est-ce que ça, comment ça se passe dans le processus éditorial?
Oui.
Tu en parles en conférence, tu dis j'ai envie de faire cette promenade, en gros, en tout cas, ces choses vues. Comment ça se passe, ça?
Oui, j'ai proposé le sujet. Je ne savais pas du tout si j'aurais les moyens de sortir un article au final, mais je me suis dit il faut que je fasse cette promenade, que j'aille voir. Je voulais que ça ne soit pas juste une succession de clichés. Je voulais absolument. J'espérais pouvoir raconter quelque chose. Et qui parle à la fois au Libanais qui connaît cette ville et qui va reconnaître que je prends par la main dans cette promenade, et en même temps à toutes les personnes qui ont connu ou qui ne connaissent pas Beyrouth et qui, comme vous l'avez rappelé, qui peuvent ressentir un petit peu les émotions, les odeurs, tout ce côté moyen-oriental, méditerranéen de cette ville multimillénaire et qui là a été à bout de souffle, vraiment saccagée.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour le journaliste dans la maîtrise? Parce qu'il est un professionnel, il doit donner des informations. C'est le premier type de papier, très clinique, très les choses, les personnes, ce qu'elles disent. Ou le second, où au contraire, il y a une sorte, on laisse libre cours à sa sensibilité, en ayant le souci de la signification néanmoins. C'est quoi le plus délicat à conduire comme exercice?
Je veux dire par rapport au premier?
Oui. Est-ce que tu préfères écrire comme tu viens de le faire là, dans la bagnode, ou en fait il n'y a pas l'un sans l'autre?
Oui. Oui, exactement. J'aime beaucoup les témoignages, recueillir des témoignages, parce que j'aime aller à la rencontre des gens. Là, c'était l'exercice de la promenade, j'étais seule, et j'avais aussi cette crainte de raconter ma version de ce Beyrouth, et peut-être qu'on allait me reprocher, vous n'avez pas parlé de tel quartier, de telle problématique. Donc, c'était vraiment quelque chose de très personnel, c'est plus... c'est papier le moins, enfin c'est journalistique hein, parce que c'est ce que j'ai vu. Les autres articles sont plus faciles pour moi à écrire parce que je peux me concentrer sur les témoignages des gens, je peux m'appuyer dessus, donc j'en fais beaucoup moins ce genre de papier de promenade, d'impression, de ressenti, c'est quand même plus difficile .
Oui, alors il y a quelque chose de l'ordre de l'audace hein, par rapport aux autres papiers que nous avons évoqués. Je dis la chute de cette bagnode, pour reprendre ton mot, Sur la corniche, depuis la fin du confinement, badauds et joggeurs se croisent comme à l'accoutumée. Des hommes baraqués, étalés sur leurs serviettes s'enduisent d'huile. Le mois dernier, une femme s'est cassée le pelvis en chutant après s'être adossée à la rambarde de la promenade. Les agents municipaux ont constaté que les boulons qui soutenaient le garde-fou avaient été chapardés. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça ? C'est qu'il y avait déjà une déliquescence, précisément, que la corruption, oui. Ça foutait le camp, quoi, pour être un peu vulgaire.
Ah, complètement ! Complètement, à cause de la crise économique déjà, la municipalité de Beyrouth n'a plus les moyens d'entretenir les chaussées. On a vu les feux de circulation qui ne marchaient pas à un moment donné, c'était absurde, des voitures qui se rentraient dedans. Il y avait toute cette végétation qui avait envahi la ville. Beyrouth n'a jamais été très très clean, c'est toujours très chaotique, il y a des fils électriques un peu partout. Mais là, ça se ressentait vraiment beaucoup, et surtout la corniche de Beyrouth, c'est le passage obligé des touristes, censé être là un peu la vitrine de vacances au Liban. Donc malheureusement, et la crise économique a poussé les gens à voler le moindre petit boulon. Ça, donc pour moi, cette image était très significative, vraiment non seulement de cette crise, la municipalité qui n'avait plus les moyens d'entretenir cette ville, et puis le désarroi des Libanais qui sont là à voler jusqu'au, ils volent les bouches d'égout, c'est dire.
Ouais. Alors, je voudrais demander à Philippe cette envie de liberté par rapport à son exercice. Toi, sur le terrain, est-ce que tu as toujours été en quelque sorte respectueux d'une rigueur qu'on comprend bien, qui est celle du métier, ou est-ce que, et on va regarder ta première photo, la photo, c'était pas un moyen de t'en écarter et tout à coup de trouver un regard qui était entièrement singulier, qui était le tien et rien d'autre?
Oui, absolument. Moi, je me suis trouvé dans des situations quand même passionnantes, dans des événements historiques. Par exemple, ici, vous voyez, c'est l'évacuation des Palestiniens de la ville de Tripoli en 1983, après qu'ils aient été chassés par l'armée syrienne, hein, et le clan syrien qui se battait à Tripoli contre les Palestiniens. Et donc, ces Palestiniens, ils iront gagner Tunis, où va s'établir le siège de l'OLP, puisque Yasser Arafat a lui-même été chassé du Liban un an avant.
Oui.
Et donc, quand je vis un événement comme ça, je me dis, je peux pas ne pas le garder pour ma mémoire, moi. Hein. Hey. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours avec moi un appareil photo, et que, ça prend pas très longtemps de faire la photo, mais pour moi, c'est un souvenir essentiel. Et aujourd'hui, j'arrive à restituer un peu tous ces souvenirs, et finalement, quand on aligne tout ça, ça fait quand même une série d'événements assez passionnante à regarder. Quoi.
Mais ce qui est troublant, c'est, j'imagine Caroline, en train de faire ses papiers, d'aller à la rencontre des gens, et de faire des photos qu'elle ne publiera pas. Il y aurait un photographe à côté, c'est son cas. Et toi, tu fais en plus de l'image, tu fais de la télévision. Mais néanmoins, tu as ce souci de prendre un cliché alors que tu as l'esprit occupé par le sujet que tu dois fabriquer pour le journal.
Oui, d'accord. Mais bon, par exemple, là, il a fallu à peu près 5 heures ou 6 heures pour que les Palestiniens montent dans le bateau parce qu'il y avait les adieux, il y avait de la bagarre, etc. Donc j'avais quand même un peu de temps à moi pour faire de la photo. Puis comme c'est pas du numérique, c'est de l'argentique, donc on y va à l'économie. Donc quand j'ai fait 4 ou 5 photos, ça suffit, quoi. Il suffit qu'il y en ait une de bonne pour que je la garde dans mon souvenir.
Le problème, c'est que le plus souvent, elles sont très bonnes.
C'est gentil.
Oui, parce que les cadres sont incroyables. On sent cette foule. Ouais. Et c'est ce que tu veux dire. Et donc, ça veut dire que ce soir-là, il y a eu un sujet qui racontait en quelque sorte, en deçà ou au-delà de ce regard du photographe, l'événement qui venait de se dérouler.
Alors là, ta question est intéressante parce que moi, j'embarque sur le bateau avec les Palestiniens.
Oui.
Et moi, j'aurais aimé aller jusqu'à Tunis avec eux.
Et oui.
Seulement, il faut transmettre à ma rédaction. Ils voulaient leur reportage très rapidement. Donc, on a dû mettre un bateau, on a dû mettre une barque à flot au niveau de Chypre pour que, c'était arrangé, on avait arrangé ça avant, pour que je parte à Chypre et j'ai diffusé mon reportage depuis Chypre.
Oh.
Et après, du coup, je n'ai pas pu récupérer le bateau. Donc, les Palestiniens sont partis sans moi à Tunis. Et alors que j'aurais aimé, moi, les suivre jusqu'au bout, justement, pour passer du temps avec eux, leur parler, voir qui étaient ces gens qui prenaient une nouvelle fois la route de l'exode, et de l'exil. Et donc, vous voyez, c'est toujours la rapidité qui est un peu notre ennemi et qui reste notre ennemi.
Et qui te frustrait.
Oui, et qui est frustrant. Oui.
Alors, on va peut-être voir une deuxième photo derrière. Voilà, c'est quoi ça ?
Alors ça, c'est la prestation de serment des phalangistes chrétiens au début de la guerre civile, en 1975. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils faisaient le salut, vous voyez.
Oui, qui rappelle
autre
chose. Alors, j'ai dit,
mais attendez, vous savez ce que c'est, ce salut ?
Oui.
Elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est le salut romain. On fait le salut romain, voilà.
Ah.
Ouais. Alors, bon, j'ose pas dire qu'il y avait quand même une certaine tendance favorable à
quelque chose de plus radical que Rome.
Mais donc, c'est ce qui m'a frappé, vous voyez. Donc, moi, je suis en train de faire un reportage sur... j'étais avec Béchir Gemayel, qui justement... recevait les prestations de serment.
Oui.
Et donc, quand je vois ça, je me dis, je ne peux pas ne pas faire une photo. Je ne peux pas ne pas garder ça pour le montrer plus tard, peut-être au Centre Pompidou.
Et oui. Alors, au passage, on peut rappeler que le Liban est un État multiconfessionnel. Hein, oui. C'est ça, je ne dis pas de bêtises.
Le Liban est bâti sur le partage entre communautés. Quoi.
Voilà, donc, avec des poids politiques qui sont... relatif au nombre de personnes de la confession.
Oui, enfin une répartition qui est, bon, bah, par exemple, le président de la République doit être un chrétien, le Premier ministre un musulman sunnite, le président de la Chambre un musulman chiite, et ça n'a pas changé depuis 1943.
Oui.
Même si le président de la République, aujourd'hui, a moins de pouvoir qu'il n'en avait
auparavant.
Au début des mandats. Quoi, c'est ça.
Alors ça, en s'appuyant sur cette photo, Caroline, est-ce que ce qui faisait cette singularité libanaise, justement pour évoquer un peu maintenant le pays au fond, est-ce que c'est restaurable pour que le pays renaisse dans une vivacité démocratique réelle, ou est-ce que c'est une encre qui ne l'aide pas à reprendre la surface, à rejoindre la lumière?
Oui, complètement. Le système libanais est basé sur le communautarisme, donc c'est un poids, important. C'est ce qui a été l'un des moteurs de la révolution d'octobre 2019, toute cette jeunesse, toute une partie de la population libanaise qui est descendue dans la rue pour dénoncer cela. Pour dénoncer les gouvernants, la classe politique corrompue, le sectarisme. Donc, à cette époque-là, on a vu une société civile multiconfessionnelle qui a émergé. Et là, la jeunesse libanaise, enfin, une partie d'entre elles, vraiment rompre avec tout ça, veut et pour le mariage civil, parce que là, il faut savoir que, par exemple, le mariage est régi par les différentes communautés, les histoires d'héritage également. Donc, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui pèse au Liban.
Philippe, vas-y.
Oui, Caroline, moi, je me souviens que dans les années 75-76, au début de la guerre civile, il y avait déjà des manifestations de jeunes qui brûlaient leur carte d'identité, parce que sur la carte d'identité, il y avait marqué la religion. Donc, il y avait vraiment une volonté de mettre fin à ce système. Et aujourd'hui, 45 ans après, ça court toujours. Il n'y a pas eu de possibilité d'empêcher le communautarisme de persister au Liban, quoi.
Non, bien sûr. Alors maintenant, sur la carte d'identité, c'est plus mentionné de manière... mais c'est certain, quand on vous demande... Vous montez dans un taxi, on vous demande tout de suite « Ah, mais tu viens d'où ?» Après, on sait à peu près où te situer, si tu viens de la montagne,
oui,
du sud. Donc, c'est terrible, on est toujours ramené. Vous n'êtes pas Libanais, vous êtes Libanais maronite, Libanais chiite, sunnite. Enfin, c'est très compliqué.
Oui, c'est très particulier, ça. Effectivement, on l'a tous vécu en allant là-bas. On va voir une autre... photo apportée par Philippe. C'est quoi ça ?
Alors ça, c'est dans le quartier du Parlement, c'est l'intervention de l'armée syrienne en novembre 1976. Oui. Donc l'armée syrienne intervient au Liban pour tenter de mettre fin à la guerre civile. Bon, les Syriens ont toujours eu un rôle ambigu, c'est-à-dire que quand il y avait une force qui dominait, par exemple, si c'était les Palestiniens qui dominaient, alors ils prêtaient assistance aux chrétiens pour mater les Palestiniens. Si c'était le contraire, ils prêtaient assistance aux Palestiniens pour mater le camp chrétien. Donc il y a toujours eu un comportement ambigu de la part des Syriens. Et là, en novembre 1976, donc ils interviennent. Ça faisait des mois, des semaines qu'on disait qu'ils allaient intervenir. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes à cette époque-là, parce que la majorité des journalistes occidentaux étaient sur la mort de Franco. Oui. Et donc, moi, j'étais à Beyrouth, et donc j'ai suivi l'armée syrienne dans sa progression. Et voilà,
quand,
un spectacle
quand tu fais
de,
cette
de
image, tu veux montrer quoi là aussi, la désolation, la destruction, ou il y a un sous-texte?
Moi, je pense un peu à Stalingrad, quoi, quand je me trouve dans cette situation-là. Il y a tellement d'impact, d'obus.
Le décor est stupéfiant.
Et donc, avec cette armée syrienne en premier plan qui surveille le quartier du Parlement.
Ça dit beaucoup de choses.
Voilà, une photo comme ça, ça me suffit pour résumer à elle seule une situation. C'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré, en fait, la photo à la télévision, parce que ça résume
ce qui est incroyable.
Enfin, à la base, moi, le photojournalisme, c'est ma passion première.
D'accord.
Et donc, j'ai toujours préféré l'image fixe, parce que je pense qu'à travers une image fixe, on arrive à résumer une situation beaucoup plus facilement qu'avec la télévision, où il faut plusieurs séquences, des interviews, etc.
Alors, avant de demander à la salle si des questions viennent à l'esprit des uns et des autres, on peut peut-être évoquer un peu la dimension du futur. Philippe parlait d'un juge. Il y en a déjà un qui a été évacué, si j'ose dire, pour la recherche d'établir le déroulement des circonstances, ce qui s'est passé. On peut noter au passage, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais les hommes politiques sont peu à s'être rendus sur place et à avoir visité les uns et les autres. C'est quoi ? C'est une situation qui est frappée d'inertie pour l'instant, ou est-ce qu'on sent que des choses ici et là peuvent évoluer du côté de l'aide étrangère, du côté du judiciaire, où on en est là chez toi?
Oui. Concernant l'enquête, les choses sont en train de stagner. Il faut savoir qu'il y a une tradition d'impunité au Liban qui est assez importante. Les hommes politiques fuient leurs responsabilités. L'enquête piétine, vous avez mentionné le cas de ce juge Tarek Bitar qui a été nommé il y a plusieurs mois, mais qui n'arrive pas à faire son travail. En fait, il y a une entrave à la justice qui est quotidienne parce qu'il il inquiète des personnalités qui étaient au pouvoir au moment de l'arrivée du bateau, d'un bateau qui a amené ce nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Et donc là, l'enquête a avancé. On sait qu'il y a certains responsables qui étaient au courant que ces matériaux hautement dangereux, inflammables, étaient stockés dans des conditions déplorables au port de Beyrouth, et ils n'ont rien fait. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que l'enquête s'est... est arrivé, mais c'est très difficile. Il y a les parents de victimes qui manifestent tous les mois pour connaître la vérité, et peut-être on ne la saura jamais.
Ouais. Est-ce qu'il y a une dimension risque à l'exercice de ton métier sur place, compte tenu justement des pressions, du silence, du fait qu'on ne souhaite pas que les vérités sortent? Est-ce que ici ou là, ça peut être périlleux?
Périlleux, oui, ça, certainement. Enfin, on le voit on évoque la question du Hezbollah. On dit souvent ce parti milicien qui est financé par l'Iran. On dit que c'est un véritable État dans l'État aujourd'hui au Liban, mais c'est même plus que ça. Il paralyse toutes les institutions. Et paralyse également l'enquête du port. On a bien vu que le Hezbollah fera tout pour déboulonner le juge en question.
Il a déclenché des manifestations, d'ailleurs.
Oui, au mois d'octobre, on a vécu une petite guerre civile d'une journée. Moi, j'étais sur les lieux, j'assistais à la manifestation des partisans chiites du Hezbollah et de Hamal. Et c'est vrai que c'était terrible. Et donc, il y a eu un échange de feu entre les quartiers chrétiens et les partisans chiites. Donc oui, il y a un climat sécuritaire qui est très, très, très inquiétant au Liban. Donc pour l'instant, l'enquête piétine et concernant le travail des journalistes, nous, au quotidien, on ne subit pas de pression réelle. Déjà, il faut savoir qu'on est un média indépendant, contrairement à beaucoup d'autres qui dépendaient de l'argent de partis politiques ou d'une manne financière venant de l'étranger, de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran. Et ça, on a beaucoup de chance parce que c'est un cas. Vous voyez?
Tu viens de disparaître, mais on t'entend, ça y est, on te retrouve. On parlait justement de la censure.
Oui, de l'Orient le jour, oui, je disais que c'était un cas quasiment unique au Moyen-Orient de pouvoir parler de manière libre. Et on a senti aussi avec la révolution, depuis la révolution d'octobre, il y a pas mal de tabous qui sont en train d'exploser. On peut parler de manière un peu plus libre au niveau des droits des femmes, du harcèlement sexuel. Là, j'ai récemment fait une série d'articles sur la pédophilie au sein des différentes églises chrétiennes orientales. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas, des sujets qu'on ne pouvait pas forcément aborder quelques années en arrière. Donc, les choses sont en train de changer au niveau de la parole.
Alors, la prise de risque, Philippe. C'est hélas quelque chose que tu as côtoyé de près. C'est partie intégrante du travail ou quand même, en fait, on pourrait, ici et là, éviter de courir des risques inutiles?
Il faut savoir à quel moment le risque est inutile, à quel moment il est utile.
Ouais.
Bon, vous connaissez mon cas. Moi, je suis parti au Liban le 8 mars 1986. Pour enquêter sur la mort de Michel Seurat, dont le djihad islamique annonçait l'exécution.
Oui.
Et donc, à cette période-là, la tension était extrême contre les Français. Quoi.
Oui.
Parce que justement, le Hezbollah régnait en maître sur la capitale du Liban.
Oui.
Et que la France était en conflit avec l'Iran lui-même qui finance, qui aide le Hezbollah.
Absolument.
Donc il y a toujours la question, est-ce qu'il fallait y aller, est-ce qu'il fallait pas y aller?
Oui.
C'est vrai qu'aussi, moi j'ai l'impression d'avoir été victime d'une certaine pression médiatique.
Oui.
Parce que, comme j'ai dit souvent, il y avait un bureau de TF1 à Beyrouth. Donc TF1 était sur place. Nous, on n'y était pas. Donc il fallait partir d'urgence.
Tu veux dire Antenne 2?
France 2 n'y était pas.
Oui.
Et donc, il fallait... Antenne 2, c'était Antenne 2 à l'époque.
Ouais.
Donc, il fallait partir d'urgence. Et quand on part d'urgence, on n'a pas tellement le temps d'organiser sa sécurité. On n'a pas tellement le temps de... Et donc, voilà, ça s'est passé. Quoi.
Ouais.
Mais après, c'est très difficile de dire où commence le risque, le non-risque, le trop de risque. Voilà, même à cette époque-là, prendre un avion pour Beyrouth, c'était déjà un risque. Donc,
absolument.
On ne peut pas non plus établir des frontières comme ça. Quoi.
Alors... On va juste voir...
Simplement, ce que je veux dire, c'est que, en tant que journaliste français, donc je suis français, j'ai un passeport français, donc je suis considéré comme un ennemi par les forces en présence au Liban, quoi. Surtout
sûr.
À cette époque-là, où l'Iran était en conflit avec la France, parce que la France fournissait des armes à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Donc c'était tout le...
Mais tu es toujours quelqu'un d'extrêmement discret, mais néanmoins, je t'ai senti terriblement en colère... sur éventuellement les événements qui t'étaient arrivés quand même, où tu as pensé, et à juste titre, que les choses, tu viens de le dire, avaient été précipitées quand même.
Oui, bien sûr, puisque, je veux dire, c'était connu qu'au Liban, il y avait déjà 4 otages quand on est, parti.
Il y aurait pu y en avoir d'autres, ce fut le cas.
Oui, c'est ça. Et Donc, à la limite... En essayant d'expliquer ce qui s'était passé, en essayant de défendre la cause des otages, du coup, on a compliqué peut-être ça a compliqué peut-être le problème, parce qu'au lieu de 4 otages, il y en avait 8 après ça. Quoi.
Absolument. Qu'on a vu après, tous les soirs, à l'ouverture du journal.
Oui, ça aussi, c'était un élément nouveau, c'est qu'on n'a jamais parlé autant des otages que la période où on était otage au Liban. Quoi. Et c'est vrai que tous les soirs, au journal télévisé, donc il y avait cette annonce et tout ça. Donc moi, ce qui me plairait, c'est qu'on fasse la même chose aujourd'hui pour Olivier Dubois, qui est otage au Mali, et dont on commence à parler quand même. Ça fait 9 mois qu'il est otage au Mali, dont on commence à parler quand même, mais qui est quand même quelque part un peu oublié.
Oui, et donc ici, on a une pensée, effectivement, pour cet otage journaliste. Tout à fait. Peut-être qu'on peut regarder les dernières photos que tu nous as apportées.
Il en reste une, je crois.
Il en reste une. Sur la...
C'est les jeunes, c'est les enfants soldats en quelque sorte. Donc c'est des jeunes Libanais engagés chez les Palestiniens et engagés dans le mouvement des Morabitoun, quoi. Donc c'est ce qui m'a frappé, donc c'est de voir ces enfants avec des armes. Au début. J'étais vraiment choqué par ça. Puis après, on s'y habitue. Et je me souviens, un jour, je transportais un photographe qui venait d'arriver de Paris dans ma voiture. On se fait arrêter à un barrage. Et c'était des gamins qui étaient en armes, avec des calaches, etc.
Au checkpoint.
Oui, au checkpoint. Et le photographe me dit, ah, mais dis donc, t'as vu, c'est des gamins. Je lui dis, bah oui, quoi, c'est des gamins. Et alors, et je me rendais compte que à force de vivre cette guerre, on était habitué à voir des enfants en armes, ce qui n'est pas normal, quoi. Donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus rester trop longtemps sur les événements, parce qu'on finit par s'y habituer. Et donc là, je me suis dit, non mais attends, tu ne t'étonnes plus des choses. Tu dois t'étonner de voir des gamins qui sont bien armés comme ça. Donc c'est là aussi où des fois il faut décider de rentrer.
Oui, et c'est pas toujours simple. Ouais. Et alors la dernière image que je trouve très révélatrice finalement de la télévision, voilà, c'est
donc ça,
l'équipe
c'est
qui
pendant
est
la
avec
guerre,
toi.
Pendant la guerre Irak-Iran, donc c'est en 1983 sur le front de Bassora avec l'armée irakienne, donc qui aurait utilisé des gaz de combat. Alors donc ma rédaction me dit, mais il paraît qu'ils utilisent des gaz, etc. Bon, je dis oui, c'est vrai que les victimes. Elles ne portent pas de blessures, donc on peut penser qu'ils ont été gazés. Mais moi, je ne suis pas non plus médecin légiste pour affirmer qu'ils ont été, gazés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est les premières caméras vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle l'humatique. Et donc, la caméra est reliée par un câble au magnétoscope que porte le preneur de son.
Qu'on voit la tache blanche, c'est le magnétoscope.
Et donc, quand il y a une explosion, bah, faut que les deux courent à la même vitesse, sinon il y en a un qui va tirer l'autre. Donc,
absolument.
Et en donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cette photo. Bah, ne serait-ce que aussi, moi, c'est une photo, j'ai une séquence où j'ai été censuré par ma chaîne, parce que la séquence durait à peu près 1 minute sur ce champ de corps de soldats iraniens. Et ma rédaction m'en a coupé 30 secondes ou 40 secondes en
Pourquoi
me disant non, mais parce qu'on ne peut pas montrer comme ça les morts et tout. Mais je dis, attends, c'est une guerre qui a fait 800 000 morts, la guerre Irak-Iran, entre 1980 et 1988. Alors si une guerre qui fait 800 000 morts, on ne peut pas montrer qu'il y a des morts, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'il y ait... En plus, bon, il y avait une façon très pudique de les filmer. Et le caméraman Jean-Jacques Le Garec... a filmé de façon très, très pudique ce champ de cadavres. Quoi. Donc il y a un moment quand même où il faut montrer les choses.
Bien sûr, la guerre, est-ce que c'est Bon, alors, on va peut-être maintenant se tourner vers la salle et voir quelques questions que vous pourriez poser à nos deux amis journalistes. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à 30-40 ans de distance... voilà, ils sont allés sur les mêmes terrains, ont rencontré les mêmes réalités. Caroline est libanaise, toi tu es français, mais bon, presque libanais d'adoption, vu le nombre d'années que tu as vécu là-bas, et tu as parlé, et ils ont parlé des rapports avec leur rédaction, c'est ce que tu viens de faire encore, et que voilà, les choses sont toujours... en débat, elles se font au fur et à mesure, il y a des discussions, rien n'est comme ça simple. Il y a toujours des difficultés, les durées, le sujet, la nature des images. Alors,
j'ai une question, j'ai commencé égoïstement, donc pour Caroline. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, vous en avez déjà un peu parlé, de présentation sur L'Orient le Jour, qui est quand même un journal très très important, et aussi quelques mots sur votre parcours professionnel, votre formation, et comment vous êtes devenue journaliste. Merci.
Oui, alors je vais commencer par mon parcours. En fait, je suis tombée dans le journalisme un peu par hasard. Voilà, après mes études scolaires au Liban, je suis allée en France, j'ai commencé des études de droit à Assas, que j'ai vite abandonné, j'ai vu que c'était pas pour moi. J'aimais beaucoup l'écriture depuis toute jeune, mais voilà, je me suis dirigée vers des études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, et ensuite je suis rentrée au Liban quelques années plus tard, et j'ai un peu erré, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai travaillé auprès d'architectes, voilà, pour des différents projets, et après j'ai tout arrêté, j'ai dit non mais moi j'aime l'écriture, je n'avais pas fait d'école de journaliste, donc je savais très bien que ça pouvait me pénaliser, donc j'ai proposé mes piges à différents magazines au Liban, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai travaillé sur mon écriture, que j'ai appris les ficelles du métier, et quand j'ai pu avoir l'opportunité d'intégrer le jour, j'ai pas hésité, et ils m'ont accordé leur confiance, et j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai appris sur le tas en me concentrant, j'avais choisi de me concentrer sur le conflit syrien, et j'ai donné essentiellement la parole aux Syriens en Syrie et qui me racontaient leur quotidien, qui me racontaient les petites anecdotes, leurs difficultés dans ces temps terribles. Et vraiment, je le dis souvent, mais c'est vraiment grâce aux Syriens que j'ai pu me former journalistiquement. Et concernant le jour, c'est un vieux journal, le plus vieux journal au Moyen-Orient. On va fêter dans quelques années, dans 2 ans, nos 100 ans. Voilà, donc c'est l'un des seuls médias francophones. C'est le média francophone principal au Liban. C'est un journal qui a connu beaucoup de difficultés. Il y a donc d'anciens journalistes et toute une nouvelle génération qui cohabitent. Donc c'est très intéressant pour des personnes qui n'ont pas connu la guerre civile libanaise ou très peu. On a toujours, on échange avec plaisir et avec émotion sur toute cette époque-là, toutes les anecdotes, comment ils ont vécu, comme l'a pu le rappeler Philippe Rochaud, toutes ces difficultés de faire son métier en temps de guerre. Voilà, et c'est un journal qui essaie de penser contre lui-même, se bat au quotidien pour rapporter l'information et de changer un petit peu l'image qu'avait ce journal qui était un peu catalogué, le journal de la bourgeoisie chrétienne, d'Achrafieh. Voilà, on essaie de sortir hors des clous. Et donc, ça peut choquer une partie de nos anciens lecteurs, mais on est content aussi de partir dans cette direction-là. Et comme c'est un journal indépendant qui ne dépend pas de financement de la part de partis politiques ou de pays étrangers, c'est un journal qui tient debout malgré la crise économique. Nous avons des actionnaires qui malgré ces temps difficiles, font tout pour conserver toutes les équipes, la rédaction, les employés, pour nous permettre de travailler dans des conditions raisonnables, parce qu'en sachant que voilà, la crise économique nous a tous impactés, il y a beaucoup de journalistes qui ont d'ailleurs comme moi la double nationalité française ou canadienne ou suisse qui auraient pu partir dans ce milieu de ce chaos et qui ne le font pas parce qu'ils croient vraiment en leur métier à ce moment-là dans leur pays.
Oui, on peut dire d'ailleurs au passage que c'est la réunion de deux journaux, pour le coup, historiquement, qu'il y avait L'Orient et Le Jour, et d'où ce titre étonnant, L'Orient, Le Jour, qui est dû à ce rassemblement des deux quotidiens d'époque des années 20, 30, je crois, une chose comme ça. Alors, monsieur, ou madame, pardon, je vois mal.
Oui, bonsoir. J'avais deux questions. Bonjour. Deux questions. Ma première question, c'est le petit pays Liban géographique, comment il se fait que c'est un grand pays médiatique? C'est légitime certainement de parler des problèmes du Liban parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais dans le monde, il y a des pays, des très grands pays où il y a énormément de problèmes, mais dont on ne parle pas du tout. Alors, comment le Liban s'est bien débrouillé, entre guillemets? Et deuxième question, est-ce que les problèmes qui sont en cours de résolution, peut-être, vont aussi impacter le système communautaire? Parce que c'est un modèle qui est aussi un contre-modèle pour d'autres pays qui ne trouvent pas comment gérer leur vie en communauté, entre communautés.
Alors, je ne sais pas qui veut répondre à la question. Si vous voulez répondre successivement.
Alors, sur le Liban médiatique, oui. On peut sur peut-être le Liban demander médiatique, à Philippe.
Oui. C'est vrai que le Liban, pour nous, c'est pays ami, c'est pays francophone, c'est ancien mandat français. Donc c'est vrai que les choses qui se passent au Liban, on est beaucoup plus sensible à ce qui peut se passer au Nicaragua ou au Venezuela. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que le Liban, on en parle quand même plus facilement que d'autres pays. Mmh. Mais moi, je me souviens qu'au début de la guerre civile, j'avais du mal à intéresser ma rédaction à ce qui se passait dans le pays. Mmh. Et finalement, le jour où il y a eu un déclic, c'est parce qu'il y a eu un père... Le père Gerfagnon, je me souviens encore, un père jésuite qui a été tué dans les combats de la guerre civile. Alors, ça signifiait quelque chose pour les gens en France. Et du coup, ça a été l'élément déclencheur qui fait qu'à partir de là, ben, on a commencé à parler régulièrement de la guerre civile du Liban.
Mmh. On peut ajouter le fait qu'il y avait Beyrouth en tant que place financière qui ouais. a été importante, une force mmh. économique réelle. Voilà, du business, quoi, de la Suisse, comme
voilà,
on disait.
Voilà, il y avait les clichés habituels, la Suisse du Moyen-Orient.
Il y avait le fameux cliché.
La terre de lait et de miel qui est ensanglantée.
La terre de lait, oui, qui il paraît dans le mot Liban en tant que tel, ouais. Dû un peu aux montagnes. Mm-hmm. Et puis, il y a ce fait qu'il y a les Palestiniens, le problème palestinien qui est là et qui fait que le monde entier... s'interroge sur ce qui va se passer à Rafat et les Palestiniens eux-mêmes.
Et toujours la question aussi, que va faire Israël dans cette situation-là ?
Exactement. Parce que, Alors après, il y a la question oui. du modèle qu'on a un peu évoqué, vous avez raison, et surtout en ce moment, Dieu sait si on entend ces questions se reposer, est-ce que tu penses qu'on va vers un nouveau... une nouvelle idée du Liban, de son organisation, du principe de son organisation, qui aura ce ouais. sursaut politique ?
Je pense qu'on est très loin de se poser ces questions pour l'instant. Le Liban, c'est un tout petit pays, mais aujourd'hui, qui a des problèmes de l'ordre de l'existentiel. Déjà, il faut rappeler qu'il y a une corruption endémique, on a une grave crise financière et on a un système de gouvernance qui ne fonctionne plus. On a également le Hezbollah qui fait partie du problème, qui est financé par l'Iran. À côté de toutes ces problématiques internes, on a également un voisin israélien avec lequel le Liban est encore officiellement en guerre. Nous avons des élections qui doivent se tenir au mois de mai. Donc, c'est vraiment l'espoir sur lequel les Libanais se raccrochent. On sait très bien que tout ne va pas être bouleversé. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Donc, on espère que les racines qui ont été, qui ont germé lors de la révolution d'octobre 2019 vont avoir une petite signification. Malheureusement, c'est ce qu'on constate, c'est qu'avec la crise économique, les gens se replient vers leur communauté, ouais. Les communautés qu'ils décriaient, leur leader politique, qu'ils fustigeaient lors des manifestations pendant la Révolution. Bah aujourd'hui, ils se retrouvent à revenir dans leur giron pour des questions purement financières, parce que ces gens-là ont basé leur système sur le communautarisme, donc vont aider leur communauté, leur population en ces temps difficiles. Donc on craint que voilà, les gens repartent, redonnent leur voix vers les partis traditionnels.
Et juste un dernier mot sur le côté médiatique. Je dirais que, en passant, le patron de Renault, Carlos Ghosn, est au Liban. Mmh. Et donc, voilà, ouais. médiatiquement, on en parle.
D'accord. Bonjour.
Bonjour.
J'avais deux questions. Une, disons, plutôt sur le fond et l'autre sur la forme, le...
Oui.
Donc, la question, j'avais une question sur le style, puisque vous évoquiez justement une nécessité d'avoir une rigueur, d'être minimaliste, et au contraire, un intérêt pour être dans les sensations. Et je me demandais, mais est-ce que justement ce qui fait un bon article, c'est pas l'équilibre entre la rigueur cette prise de recul et de permettre au lecteur de s'immiscer dans les événements par l'utilisation de sens, etc. Et la deuxième question, c'était, comme vous l'avez évoqué, au sujet des minorités au Liban. Est-ce qu'il y a eu une communion, une union des minorités, je pense aux minorités syriennes, comme vous l'avez dit, arméniennes aussi, qui sont assez importantes au Liban après les explosions, et aussi quelle est la place des minorités juives au Liban lorsque l'on sait le conflit avec Israël?
Alors,
oui, moi.
Oui, vas-y, Caroline.
Après les explosions, il n'y a pas vraiment eu de communion entre les différentes communautés. Moi, je suis allée à la rencontre plusieurs mois après les explosions de Palestiniens, par exemple, qui ont été touchés et ils sont complètement isolés. Non, c'est encore très, 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 très cloisonné. Je répète, pendant la révolution, il y a eu ce sursaut. On avait l'impression que tous les Libanais de toute confession et de tout âge confondus s'unissaient pour la première fois, et c'était un moment vraiment merveilleux et magique. Mais au final, plus les semaines avançaient, on a vu que certes, ils étaient là pour dénoncer une classe politique, mais chacun, on pouvait pas. Les Libanais ne peuvent pas s'accorder sur toutes tous les enjeux à venir de ce pays.
Et sur le style, on va peut-être demander à Philippe, sur cette alchimie entre la rigueur, mais qui ne suppose pas l'absence d'émotion.
Pour moi, il faut donner au lecteur ou à l'auditeur tous les éléments pour qu'il se fasse une opinion, mais nous, on n'a pas à intervenir. Mais oui. Nous, on est des êtres humains, on ne fait pas un rapport de gendarmerie non plus, on fait un reportage, donc automatiquement, on sent certainement que derrière le reportage, le journaliste, il a quand même une opinion, il a des sentiments, il a des émotions. Ça, on ne peut pas le supprimer, quoi. Mais je pense que notre but premier, c'est de livrer aux gens un maximum d'informations, d'images explicatives pour qu'ils se fassent eux-mêmes une opinion.
Mmh. Et il peut y avoir une communauté d'émotions entre le journaliste, oui. Une synchronisation, je dirais, dans le récit, entre le journaliste et l'audience.
Oui, moi je dirais que le courant passe. Quand vous faites un reportage qui est, disons, qui apporte des éléments d'information, d'émotion, etc., le public le partage.
Oui. Hein,
et le public peut-être vit un peu la même chose que vous sur le terrain.
Oui. Par procuration grâce à toi.
Et partage vos émotions ou vos sentiments, quoi. Mm.
D'autres questions?
Oui. Alors. Monsieur?
Monsieur, ah oui, pardon. Monsieur.
Merci. Pour moi, le Liban, c'est un pays multiculturel, multiconfessionnel. Et donc, la Syrie, le Liban, c'est pratiquement la même chose. Alors, je ne comprends pas très bien que, justement, il y a un certain racisme, que vous avez dit, Caroline Ayak, des Libanais contre les Syriens. Je voudrais savoir d'où ça vient, parce que ça paraît très curieux, puisque c'est, à ma connaissance, c'est le même peuple, je veux dire.
Caroline?
Oui,
pas vraiment.
Oui, il faut savoir que le Liban a été sous tutelle syrienne jusqu'en 2006. Donc le régime syrien de Hafez el-Assad a eu une mainmise sur ce pays pendant de très nombreuses années. Et beaucoup de Libanais ont disparu. D'ailleurs, dans les geôles syriennes, il reste beaucoup de personnes dont on ne connaît pas le sort encore aujourd'hui. Donc forcément, l'historique entre les deux pays a fait qu'il y a eu cette méfiance vis-à-vis des Syriens. Et ensuite, il faut savoir lors du déclenchement de la guerre en Syrie, en 2011, il y a eu ce flot de réfugiés qui est arrivé au Liban, dans un pays qui avait déjà ses propres difficultés. Donc forcément, c'est venu rajouter une couche supplémentaire, et les Libanais ont trouvé comme bouc émissaire ces populations syriennes, ces réfugiés qui venaient, donc qu'ils accusaient de tous les maux, de prendre le travail des Libanais, d'occuper leurs terres. C'est pour ça que voilà un peu l'explication de ce racisme-là.
Une question de madame.
qu'est-ce que je fais ? C'est toi qui tiens ? Ouais. Oui, bonjour. D'abord, félicitations d'être lauréate du prix Albert Londres 2022. Je trouve ça extraordinaire. Ça va ? Il faut que je parle là ?
Oui. C'est 2021.
Oui. Et là, c'est dans la tradition d'effectivement apporter son encre et de mettre sa plume, comme disait Albert Londres, dans la plaie.
Absolument.
La plaie, elle est immense, elle est à la représentation de ce qui se passe dans la mondialisation, et que le Liban soit le terrain d'exercice de tout l'impérialisme qui a écartelé et qui a empêché, sous une forme, de faire que le peuple libanais prennent son destin en main. C'est comme ça que je vois les choses. J'ai lu l'article quand il y a eu là, le printemps des pays arabes, comme on dit, le Irak en Algérie, chez vous au Liban, la révolution, entre guillemets, de libanaise, en 2019, je me suis réveillée et j'ai commencé à regarder, à chercher, à comprendre ce qui se passait dans ce pays qui est francophone depuis le protectorat des Français. Après, bon, le partage, je suis incapable de dire vraiment des choses fortes là-dessus. On aurait besoin aussi d'un historien, évidemment, tout ça. J'ai lu un numéro spécial du Monde diplomatique là, de Serge Halimi sur justement le Liban, qui est extraordinaire, que je conseille à tout le monde. C'est un numéro spécial qui a été écrit en 2019 ou 2020 exactement. Alors, vraiment, enfin, il apprend tout, enfin, il dit les choses. Voilà. Et je voudrais vous demander, très personnellement, vous avez reçu effectivement, comme tout le monde, donc après cet intérêt qui a été réveillé par le réveil des peuples, comme nous tous, je crois, dans cette période de 2019, on s'est interrogé, on s'est questionné. Et le 4 août est arrivé comme un climax d'une marche à l'abîme pour le Liban, et comme une métaphore de l'effondrement et en même temps de la complicité, évidemment, de toutes les puissances, je dis, avec les dirigeants libanais. Actuellement, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vont se présenter pour les élections là, qui vont arriver dans 3 ou 4 mois. J'aimerais, vous, en tant que... Et je vous considère, je vous vois, je n'ai pas lu vos articles, mais j'ai tout de suite été intéressée par la présentation de la BPI qui écrivait que votre déambulation dans Beyrouth, particulièrement dans justement cette communauté syrienne, double peine, comme l'écrit la BPI, de l'exil, évidemment, de réfugiés, plus c'est eux qui habitaient dans ce quartier le plus proche, et qui a effectivement, combien y a-t-il sur les 200 morts de morts syriens, je me suis dit, vous êtes une écrivaine, et je vois tous les ouvrages qui ont été écrits et que j'ai lus. Donc justement, prise comme vous par l'émotion terrible de cette chose, enfin de cette explosion qui faisait exploser les corps et les esprits, j'ai lu Sharif Majdalani, j'ai lu d'autres livres qui ont été Yarem Implosion, et je pense que vous êtes proche et vous utilisez votre art, votre pensée, vos émotions, votre intelligence à faire ce métier du journalisme par l'écrit. Vous auriez pu choisir la photo, vous auriez pu choisir le cinéma, vous auriez pu choisir d'autres formes d'expression. Donc je vous mets dans la catégorie aussi écrivaine, enfin voilà, créatrice, mot. Et j'aimerais savoir vous n'avez pas pu ne pas écrire sur ça. Vous le dites là, que vous avez complètement été prise au cœur, au corps, et vous êtes partie, vous êtes repartie chez vous et faire ça. Maintenant, ma question, elle est bébête. Est-ce que vous allez continuer dans ce style, en fait, d'engagement total pour être, voilà.
Merci. Alors, merci. Caroline, ça sera, je pense, le mot de la fin. Est-ce que...
Oui.
Jusqu'où...
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que de vivre dans un pays en déliquescence, je fais partie de la population, je vis les mêmes problématiques. Dans des conditions un peu plus favorables. Heureusement, j'ai toujours mon travail. Mais c'est de plus en plus compliqué de rester au Liban. C'est vrai que je parle pour moi, mais aussi à tous mes collègues journalistes au sein de la rédaction. Il y a eu des moments très, très difficiles où après les explosions du 4 août et puis après cette stagnation de ce pays là qui est à l'agonie, à plusieurs reprises on a voulu partir, postuler à l'étranger. Et c'est vrai que je reviens sur le prix, mais d'avoir reçu le prix Albert Londres à ce moment-là où on n'y croyait plus, on est resté témoin de cette chute, de cette descente aux enfers. D'avoir reçu ce prix, ça nous a vraiment reboosté, pas que pour moi, mais toutes les équipes de L'Heure le Jour. On s'est senti à ce moment-là vraiment utile et on est prêt à continuer notre travail et on veut surtout raconter ce qui se passe au plus près. Et notre crainte, c'est que malheureusement, l'actualité libanaise n'intéresse plus les gens à l'étranger, notamment en France, parce qu'il y a forcément une lassitude. On a l'impression je trouve plus de sujets parce qu'il y a tous les jours la même chose. Un tel bloque le gouvernement, la chute de la livre qui continue. Enfin bref, c'est assez compliqué. Donc je sais pas si j'ai assez répondu à votre question.
Si, Caroline. En tout cas, ce qu'on peut te dire, c'est que ici, la salle qui est là, nous, on a toujours ce regard plus que bienveillant à l'égard du Liban. Et puis, puisqu'on a commencé avec Albert Londres, on va finir avec lui parce qu'il y a une petite astuce. J'ai dit que Albert disait « Non, monsieur, je ne suis pas syrien, je suis libanais ». En fait, il y a une suite à la phrase. Pour être juste, dit Albert Londres, ils ne disent pas « nous sommes Libanais », ils répondent avec orgueil « nous sommes franco-libanais » et cela parle français comme monsieur Anatole France. Alors, au nom de cette proximité, on souhaite une très longue vie à L'Orient le Jour. D'autres Merci. Prix, va savoir. Et puis, on remercie énormément Philippe Rochaud d'être venu ce soir. Merci beaucoup, Philippe, pour qui tu es. Et merci d'avoir été là, nous accompagner. Merci, messieurs, dames.
Merci. Je vais continuer sur les remerciements. Donc, un grand merci à Caroline Hayek d'avoir été parmi nous ce soir.
Merci à vous.
Je sais qu'il est un peu tard à Beyrouth, donc c'était vraiment passionnant. Merci à Philippe Rochaud, merci à Hervé Brugini. Un grand merci à Renaud, à Alexandre et à Thomas à la régie d'avoir permis la réalisation de cette soirée.
Merci.
Je vous remercie d'être venu ce soir et on se retrouve le 7 mars pour la prochaine édition de Profession Reporter.